Jean-Bernard Leroy, voici donc mon exposé du mois de novembre. En cette fin d'année liturgique, je vous propose une halte dans l'histoire de l'Église afin de méditer sur une homélie de notre pape faite aux anciens élèves d'une association, texte dont de larges extraits ont paru dans le numéro 1526 de l'Homme Nouveau du 26 septembre dernier. Je ne préciserai pas toujours la partie directement extraite du texte, car il ne s'agit pas d'une méditation personnelle, mais de la présentation d'un texte de notre souverain pontife. Notre époque est triste, voire sinistre. Les informations ne nous parlent que de crimes, d'attentats, de banditisme. Nos dirigeants, qui ont l'infernal toupet de se nommer l'élite, passent leur temps à puiser dans les caisses publiques ou à se rendre complices de malversations qui en conduisent plus d'un devant les tribunaux, et cela malgré leur protection en haut lieu. Nos écoles ne proposent plus comme modèle Saint-Louis, Saint-Jeanne d'Arc, Bayard ou Mermoz, mais Landru ou El Capone. L'art populaire suit la même pente. Il n'y a plus de petites plaisanteries ou de joyeux calembours, mais de la dérision pleine de jalousie et de mépris. Où sont les chansons de ma jeunesse d'octogénaire? Chansons qui s'appelaient « Y a de la joie »,« Le soleil a rendez-vous avec la lune » ou bien « Vous êtes joli, mon petit oiseau ». Les chansons actuelles ne sont que cris de désespoir, de haine, comme le chant des partisans, à moins qu'il ne s'agisse de borborygmes angloïdes sur fond de tam-tam. La musique symphonique ne vaut pas mieux. Ce n'est plus ce magnifique motet « Jésus que la joie demeure », véritable entrée en méditation, mais des hurlements de saxophones sur fond de grosses caisses. Bref, notre époque est asservie par l'envie et la haine, elle est triste, sombre, elle laisse un avant-goût de l'enfer. Pour couronner tout cela, je citerai des extraits d'un livre de Vincent Peillon paru sur un manifeste scolaire. Le texte de Vincent Peillon paru en 2010 sous le titre « Une religion pour la République ». La foi laïque, une religion pour la République, la foi laïque de Ferdinand Buisson. Foi que l'auteur a exposé en 1899 dans un livre intitulé Le devoir présent de la jeunesse. Donc, Ferdinand Buisson a intitulé Le devoir présent de la jeunesse et Vincent Peillon a repris à son compte le principal de ses assertions. Rappelons que Vincent Peillon est l'auteur et l'actuel dirigeant du ministère qui a l'incroyable prétention de se faire nommer éducation nationale, alors que les illettrés atteignent le quart des élèves et que se multiplient les actes d'incivilité, c'est un euphémisme, tandis que les maîtresses sont attaquées à coups de poignard et que certaines sont assassinées par leurs condisciples. Certains élèves sont assassinés par leurs condisciples. Notre ministre reprend donc à son compte le texte fondateur de l'école républicaine. Je cite le texte en question. La France a cette singularité qu'élevée dans la religion catholique, n'ayant pas su faire droit à la réforme, elle n'a pas fait pénétrer dans ses mœurs une religion du libre examen, de l'égalité et de la liberté. Il faut donc à la fin déraciner l'empreinte catholique qui ne s'accommode pas de la République et trouver en dehors des formes religieuses traditionnelles une religion de substitution qui arrive à inscrire jusque dans les mœurs le cœur et la chair, les valeurs et l'esprit républicain, sans lesquels les institutions sont des corps sans âme. Il poursuit, la laïcité française est l'effet d'une recherche permanente, obstinée, d'une religion qui pourra réaliser la révolution comme promesse politique, morale, sociale, spirituelle. Il faut pour cela une religion universelle, ce sera la laïcité. Il lui faut aussi un temple ou une église, ce sera l'école. Enfin, il lui faut un nouveau clergé, ce seront les hussards noirs de la République. Nous voilà donc prévenus. Je répète, il faut déraciner l'empreinte catholique qui ne s'accommode pas de la République. Et la nouvelle religion sera la laïcité dont on n'arrête pas de nous parler. Nous voilà donc prévenus. D'ailleurs, le bus se poursuit systématiquement. Pâques n'est plus au centre de ce que l'on appelle les vacances de printemps. On cherche à supprimer le lundi de Pentecôte. Si la Toussaint est gardée, il y a peut-être un nombre d'Halloween. On généralise le travail du dimanche. Et si les cantines veillent à ne servir que de la viande halal, le poisson des vendredis de carême n'est même pas suggéré. Dans les écoles et les hôpitaux, on supprime tous les signes religieux. Aurons-nous encore le droit de voir des soutanes? En face de cela, Benoît XVI nous invite à la joie. Il ne prend pas pour motif de joie le fait d'être sauvé et racheté par le temps du Christ, ce qui est rigoureusement exact, c'est même l'essentiel. Mais, très éloigné des réflexions de beaucoup de nos contemporains, il prend comme motif de joie notre loi. Dans le Deutéronome, nous voyons la joie de la loi ressentie non comme une contrainte qui nous enlève notre liberté, mais comme un don et un cadeau. Aristote avait constaté, peut-être après plusieurs autres penseurs, que l'homme est un animal social. Il lui faut donc des règles pour vivre en société, si l'on veut éviter que le seul règlement soit celui du renard libre dans le poulailler libre. Quand d'autres peuples, dit le Deutéronome, se penchent sur la loi de Moïse, ils disent « quel peuple sage ». Ils admirent la sagesse de ce peuple, l'équité de la loi et la proximité de Dieu. Cette loi est donnée. Israël n'est pas fier de sa loi, comme Rome pouvait l'être du droit romain, les Athéniens du droit de Solon, les Sumériens du code d'Amourabi et, ajoute Benoît XVI, les Français du code Napoléon et les Allemands du code prussien. Non, la loi de Moïse nous a été donnée. C'est un don de Dieu qui donne l'art d'être homme, l'art de pouvoir bien vivre et bien mourir. Il faut naturellement que cette loi soit respectée dans son esprit et ne dégénère pas en code de tatillon de prescriptions multiples, comme ce fut le cas pour les pharisiens, les jansénistes, les puritains et tous ceux qui ne voient pas plus loin que le permettent leur lorgnon myope. La loi est une aide, un mode d'emploi. Elle est analogue aux lignes blanches, à une signalisation qui indique danger, mais aussi site remarquable. C'est dans cette direction que l'on doit mettre en valeur la célèbre phrase de saint Augustin, « Aime et fais ce que tu voudras ». Le pape poursuit. L'Église est l'Israël devenu universel, dans lequel, à travers le Seigneur, nous devenons les enfants d'Abraham. L'Église est l'Israël devenu universel, dans lequel persiste le noyau essentiel de la loi. Ce noyau est tout simplement le Christ, l'amour de Dieu pour nous, et notre amour pour lui et aussi pour les hommes. Il est le don de Dieu pour nous. Il convient donc à l'Église d'être remplie de gratitude et de joie. Quel peuple peut dire que Dieu lui est aussi proche? Quel peuple a reçu ce don? Ces paroles de vérité ont souvent quelques difficultés à être admises de nos jours, car les notions de vérité et d'intolérance sont complètement fusionnées entre elles. Nous n'osons plus croire à la vérité, ou plutôt nous n'osons plus parler de vérité. Notons en passant que la tolérance ne concerne que le mal. On ne tolère pas un bien. On s'en délecte, on le contemple. On ne peut que rêver d'un monde où le mal aura disparu et où, par conséquent, nous n'aurons plus rien à tolérer. Quant à la vérité, nous n'en sommes pas propriétaires. Nul ne peut dire « j'ai la vérité ». Nous sommes les serviteurs de la vérité. Le Christ a dit « je suis la vérité », nous lui appartenons. Nous devons apprendre à nous laisser mouvoir par elle, à nous laisser conduire par elle, d'où la nécessité d'une loi. Pour juger les bienfaits de la loi, il suffit de comparer la vie dans une société où ne règne que la loi du plus fort, qui sombre dans l'envie, le ressentiment et la haine, ou celle d'une société monacale, régie par une règle souvent exigeante, mais où règne la paix, la concorde et la joie. Sous la présidence du Christ qui a proclamé « Je suis la voie, la vérité et la vie », sans elle, nous ne pouvons que répéter les mots, donc sous elle, nous ne pouvons que répéter les mots du Deutéronome. Où y a-t-il un peuple de qui Dieu est aussi proche que notre Dieu chaque fois que nous l'invoquons? Cela est devenu une pleine réalité dans l'Eucharistie. Dieu nous est encore plus proche, car il s'est incarné. Il est devenu un homme. Ceci doit nous déconcerter, dit Benoît XVI, et nous surprendre encore et encore. Dieu est même allé jusqu'à nous dire « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». La loi transforme les créatures que nous sommes en serviteurs et en amis. Elle nous permet d'être libérés des ténèbres, de ne plus errer à tâtons, d'être dans la lumière, dans l'ampleur de la vérité. Le danger reste toujours de se laisser conduire à la présomption qui vend soi-même au lieu de Dieu, ou au scrupule qui ne nous fait rien voir dans l'Église que les règles que nous avons inventées. L'épître de Saint Jacques nous a prévenus. Vous êtes engendrés par une parole de vérité. Il faut répéter que nous devons apprendre à nous laisser conduire par la vérité, par le Christ. Nous ne nous limitons pas à écarter la parole, mais à la mettre en pratique. La théologie ne doit pas déboucher sur un jeu intellectuel dans lequel on se passe la balle, c'est l'expression même de Benoît XVI. Ce qui importe, c'est la proximité intérieure. Dieu nous est devenu si proche. Car Dieu est devenu lui-même un homme. Ceci doit nous remplir d'admiration et de gratitude. Dans le Christ, Dieu est l'un d'entre nous. Il connaît l'être humain, le goût de l'être humain. Il l'a éprouvé avec ses joies et ses souffrances. Le Christ a eu faim, soif, il a été fatigué. Il est à portée de voix. Il entend ma voix et l'exauce, même si ce n'est pas toujours comme je l'imaginerais. Saint Bonaventure a utilisé dans ses prières une formule un petit peu effrayante. « Monseigneur, comment avez-vous pu venir à l'esprit, a-t-il pu vous venir à l'esprit d'entrer dans les ténèbres sales, dans les latrines sales de mon corps ?» Car Dieu est entré dans son corps avec l'Eucharistie. Dieu entre dans notre misère pour la renouveler. Demandons pardon au Seigneur pour notre indifférence qui nous fait penser surtout à nous-mêmes. Demandons-lui d'entrer avec force dans nos âmes pour qu'ainsi la joie naisse en nous. En conclusion de cette homélie, un moine de Trier cite un texte de saint Augustin extrait du Miroir de Dieu. Je leur demande à tous s'ils ne préfèrent pas la joie de la vérité à celle du mensonge. Ils n'hésitent pas non plus sur la question du bonheur, car la vie heureuse, c'est la joie de la vérité. La prochaine fois, ce sera en décembre, et j'ai l'intention d'entretenir d'un problème très difficile qu'est l'arianisme. Mais n'anticipons pas. Je vous souhaite un bon avant. Comment on fait?